Dans l'entretien qu'il a accordé à France Inter mardi, Nicolas Hulot est revenu sur un certain nombre de raisons qui l'ont conduit à démissionner du gouvernement. Parmi celles-ci, l'incompatibilité entre notre modèle économique et l'exigence écologique. Comment affronter sérieusement les désordres de la planète si l'on s'évertue à réanimer un modèle économique qui en est la cause, s'est-il exclamé. Au même moment, sur notre antenne, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, réagissait à la démission du ministre de la Transition écologique et solidaire.
Pour moi, vous savez, quand je parle de la crise qu'on a connue et qui peut revenir, c'est tellement plus important. Quand on parle de l'immigration, c'est tellement plus important.
C'est anecdotique ce départ finalement.
Non, je veux pas blesser personne. La vie politique dans ce soubresaut quotidien n'est pas mon domaine. Je pense que cueillez Monsieur Hulot ou pas, la question de l'immigration est centrale. Qui est Monsieur Hulot ou pas, la question du montant des impôts qu'on paye est centrale. Qui est Monsieur Hulot ou pas, la question est-ce que les Anglais sont des Européens ou pas, c'est central. Pour moi, c'est tellement plus... Enfin, pardon, excusez-moi. C'est tellement plus important, tellement plus passionnant. Mais je comprends que vous fassiez votre travail, mais moi, je ne veux pas m'inscrire là-dedans. Je ne veux pas être le commentateur des décisions des uns ou des autres. Parce que dans tous les gouvernements, il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui sont en désaccord. J'ai connu ça moi-même. Bon, voilà.
Bonjour Gaël Giraud.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste de l'Agence française du développement, vous êtes directeur de recherche au CNRS et professeur à l'École nationale des ponts et chaussées. Qu'avez-vous pensé de cette réaction de l'ancien président de la République qui fut, il faut quand même le rappeler aussi, l'homme du Grenelle de l'environnement ?
Oui, Nicolas Sarkozy a été à la fois celui qui a lancé le Grenelle de l'environnement et le premier qui l'a trahi. Donc finalement, sa réaction n'est pas très étonnante. Je pense qu'honnêtement, notre ancien chef de l'État n'a pas compris grand-chose au sujet.
Il n'a pas raison d'opposer les sujets, de dire ça c'est central, mais ça l'est moins.
Il a complètement tort, puisque la transition écologique est la solution de la plupart de ces problèmes macroéconomiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le manque d'emplois, on ne ressuscitera pas les emplois en Europe aujourd'hui si on ne fait pas la transition écologique. La transition écologique, ça crée des emplois. La rénovation thermique des bâtiments, ça crée énormément d'emplois qualifiés pour les ouvriers du bâtiment. La mobilité verte aussi, l'agriculture, l'agroécologie aussi, etc. La question des migrations, il faut quand même comprendre que la grande crise syrienne à partir de 2010 prend place après une gigantesque sécheresse de 2007 à 2010 qui a été très mal gérée par Bachar el-Assad. Donc il y a un lien très très étroit entre tous ces maux dont nous souffrons aujourd'hui et la crise écologique qui est transversale. Donc d'une certaine manière, je crois que Nicolas Sarkozy est représentatif d'un état d'esprit, d'une certaine classe politique qui n'a encore pas compris du tout qu'au contraire, la question écologique est centrale dans toutes nos discussions aujourd'hui.
Et alors Nicolas Hulot avait lui tout compris? Est-ce qu'inversement, il a eu raison de dire, et est-ce qu'il avait raison de penser que notre modèle économique est responsable des désordres écologiques?
Ça, malheureusement, ça n'est que trop clair. Hein. C'est-à-dire, depuis la révolution industrielle, depuis deux siècles, nous avons construit des sociétés qui fonctionnent essentiellement au carbone, majoritairement au pétrole, mais encore un petit peu au charbon en France, par exemple, et puis surtout au gaz, et des sociétés violemment extractivistes, c'est-à-dire l'essentiel de notre prospérité dépend de notre aptitude à extraire des écosystèmes naturels, des ressources naturelles qui nous font vivre. Et ceci, alors que nous sommes dans un déni total. Si vous regardez par exemple ce que font la plupart des économistes, nos modèles à nous d'économistes ne tiennent pas compte de l'énergie et des matières premières que nous extrayons du sous-sol pour vivre. On fait comme si on pouvait produire de la prospérité uniquement avec des dollars, ce qui est évidemment faux. Voilà. Donc nous sommes dans une espèce de dénégation de notre dépendance très très étroite à l'énergie et aux ressources naturelles. Nous dévastons la planète et nous continuons d'essayer d'augmenter le PIB à tout crin, alors que le PIB est aujourd'hui le meilleur indicateur de l'augmentation des émissions de CO2.
Mais est-ce que ce n'est pas là aussi, Gaël Giraud, une forme d'idéologie? Est-ce qu'on n'est pas dans deux idéologies qui s'affrontent? Celle dite néolibérale, qu'incarnerait par exemple un Nicolas Sarkozy, dont vous dites qu'il n'a pas encore compris, comme d'ailleurs un certain nombre de membres du gouvernement ou des sphères du pouvoir politique, ce qu'il était en train de se passer. Et de l'autre côté, une idéologie plutôt écologique qui serait porté par Nicolas Hulot et peut-être par vous-même.
Non, je crois pas du tout. C'est-à-dire, il faut quand même s'en remettre à ce que nous racontent les scientifiques. Les scientifiques sont très clairs. La destruction des écosystèmes naturels, c'est un fait scientifique avéré. Le réchauffement climatique, c'est un fait scientifique avéré. La responsabilité anthropique, donc humaine, dans les émissions de CO2 et le réchauffement est aujourd'hui un fait scientifique avéré. On peut pas tout ramener à des débats idéologiques et dire tout le monde a raison pour sa part ou tout le monde a tort, peu importe. Il faut à un moment revenir sur Terre. contraire, l'irréalisme, l'idéologie et l'utopie, c'est de croire que nous pourrons continuer à vivre selon le modèle néolibéral dominant depuis 40 ans. Ça, c'est juste impossible. Nous allons avoir une nouvelle grande crise financière, probablement, dans les mois ou les années qui viennent. Hein, la sphère financière est aujourd'hui sur une gigantesque bulle qui a été alimentée par les politiques monétaires non conventionnelles des banques centrales. Ceci va éclater.
On clôt, là, pardon de vous interrompre, on clôt justement une semaine spéciale sur France Culture consacrée aux 10 ans de la crise.
Oui.
Donc elle est encore devant nous, dites-vous.
Ah bien sûr, on a une nouvelle crise qui est devant nous, qui sera encore plus grave que celle de 2008. Nous n'avons pas pris du tout les moyens en termes de régulation financière de l'éviter. L'Union bancaire européenne ne protégera pas les contribuables européens. Ça, je l'ai expliqué dans un rapport que j'ai rendu au Parlement européen en 2015. Donc vous voyez, ce système-là qui est à la fois extractiviste et hyper court-termiste. Nos outils comptables sont court-termistes, ne tiennent compte que de l'apparente création de valeur instantanée. La finance vit aujourd'hui à la microseconde. Tout ceci n'a rien à voir avec le rythme et la temporalité des écosystèmes naturels que nous détruisons joyeusement et qui sont pourtant ceux qui nous font vivre. Donc il y a une incompatibilité de fond, et comme le disait Pascal Canfin, il faut réaliser un Big Bang aujourd'hui dans nos politiques publiques, dans notre gouvernance, dans l'ensemble de nos décisions politiques.
Un Big Bang, c'est-à-dire une rupture, une révolution, tout peut changer, hein, écrivait Naomi Klein en 2015. Est-ce qu'il s'est vraiment tout renversé du système actuel? Ou est-ce qu'on sait, comme le disait d'ailleurs le titre du ministère de Nicolas Hulot, la transition,
Gaël Giraud? Oui, mais la transition, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un petit piège dans le vocabulaire de la transition, qui est de croire que nous avons beaucoup de temps devant nous. Malheureusement, nous n'en avons plus, nous l'avons complètement gaspillé dans les 20 dernières années.
Rien n'a été fait.
Si, bien sûr qu'il y a des choses qui ont été faites.
Mais pas assez, vous dites.
Mais pas assez. Je vous donne un exemple. Les émissions de CO2 en France l'an dernier ont augmenté de plus 3,2%, alors que du fait de l'accord de Paris que nous avons signé en décembre 2015, elles devraient décroître de moins 5% chaque année, si nous voulons mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc nous-mêmes, nous trahissons l'accord de Paris que nous avons signé au Bourget. Donc voilà, on ne fait pas du tout assez.
Pourquoi on ne fait pas assez?
Alors que
les faits sont avérés,
oui.
Alors qu'effectivement c'est scientifique, alors qu'on le sait, alors que vous le dites vous-même, hein, Gaël Giraud, quand vous rencontrez des industriels, des chefs d'entreprise, de la société civile, les gens le savent, le font, prennent des mesures. Pourquoi les politiques sont-ils si en retard? Pourquoi ça fait 40 ans qu'on n'y arrive pas et qu'on est encore là?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect générationnel. Disons, les plus de 50 ans n'ont jamais entendu parler des questions écologiques quand ils étaient aux études. S'ils sont aujourd'hui aux manettes, ça veut dire qu'ils travaillent beaucoup depuis de nombreuses années. Donc, ils ont peu de temps pour prendre du recul par rapport à la manière dont ils appréhendent le réel. Et donc, pour eux, comme vous le disiez d'ailleurs il y a un instant, l'écologie reste une espèce de domaine régional idéologique dont ils n'ont pas compris, hein, un petit peu comme Nicolas Sarkozy, qu'il est au contraire transversal à l'ensemble des questions humaines. Donc il y a un aspect générationnel. Et ce que je constate, c'est que les jeunes étudiants avec lesquels je travaille, par exemple, sont beaucoup, beaucoup plus sensibles aux questions écologiques et beaucoup mieux informés que la génération des plus de 50 ans, disons. Il y a un deuxième aspect qui est, d'une certaine manière, nous sommes dans une crise de civilisation. Les hommes blancs, urbains, éduqués, sont responsables de ce blocage, majoritairement. Hein. Il y a un lien très très fort entre, disons, une certaine forme de machisme et de sexisme, et les inégalités de genre, et la manière dont nous violons la nature. Il y a un lien intrinsèque, vous voyez, inconscient, sous-jacent, très profond.
Il faut que vous l'expliquiez, ça, c'est pas évident.
Ben, vous voyez, la manière dont nous traitons la nature et dont nous croyons pouvoir la violer est souterrainement liée à la façon dont certains hommes se conduisent vis-à-vis de certaines femmes. Ou vis-à-vis de certains enfants. Ça, par exemple, vous trouvez ça dans l'encyclique Laudato Si, hein, de 2015 du pape François. Il y a une unité profonde entre le viol des enfants et des femmes et le viol de la terre. Hein. Et je crois que c'est très juste, c'est très vrai. Je crois que ceux qui réfléchissent un peu à ces questions font l'expérience de malheureusement l'unité existentielle entre les deux. Donc, vous voyez, ça va prendre des décennies, des siècles peut-être, mais il y a urgence aussi à ce qu'on prenne des décisions. Alors là où votre question est très pertinente, c'est qu'on peut pas attendre le grand soir. Donc il faut aussi des décisions incrémentales, il faut aussi des petits pas, mais encore faut-il qu'il y en ait des vrais petits pas.
Gaël Giraud, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas être écologiste ou pro-planète, je ne sais pas comment le dire, et libéral, pro-entreprise? Est-ce que c'est vraiment deux choses qui sont incompatibles?
Non, pas du
tout. Ou est-ce que c'est une certaine forme de modèle économique et que, d'une certaine façon, l'adaptation ou la transition écologique passe justement par un changement de modèle économique qui ressemblerait à quoi?
Alors, et donc il faut distinguer, à mon avis, entre la grande tradition libérale du XVIIIe siècle, avec des gens comme Kant, par exemple, qui a souhaité, à travers le droit, se protéger contre la tyrannie politique. Et le néolibéralisme, dont nous souffrons depuis 40 ans, qui prétend assujettir le droit, à une logique économique très court-termiste, financiarisée, extractiviste, et dont l'analyse économique fondamentale, l'économie néoclassique, est fausse, est intrinsèquement fausse. Donc, ce dont il faut se débarrasser, c'est du néolibéralisme, pas du tout de la tradition libérale, bien au contraire. Il faut protéger les libertés contre toute forme de tyrannie. Vous parliez tout à l'heure du million de Ouïghours qui sont dans les camps en Chine, il faut absolument protéger ces personnes-là. Voyez, en revanche, il faut rompre avec cette idée que une logique économique court-termiste, financiarisée et extractiviste pourrait s'imposer au droit et assujettir le droit.
Il faut, ça veut dire quoi? Comment fait-on? Je reprends la tribune de Cyril Dion dans Le Monde cette semaine, il le dit lui-même, ne plus construire d'Airbus, c'est mettre des milliers de gens à la porte. Or, quel est le sujet central de chaque élection présidentielle? L'emploi. Taxer le pétrole, c'est taper directement dans le portefeuille de millions de personnes dépendantes de leur voiture pour aller travailler. Fermer les centrales nucléaires, c'est être obligé dans la transition de produire de l'électricité avec des énergies fossiles, comme le fait l'Allemagne, régulièrement épinglée pour ses usines à charbon. Même couvrir la France de panneaux solaires et d'éoliennes engendrerait certains problèmes écologiques. Cela dit, il défend absolument la transition écologique, je tiens à le préciser. Comment fait-on concrètement? Alors, qu'est-ce qu'on fait?
En 2013, il y a eu une dizaine de scénarios de transition énergétique qui ont été élaborés par un comité d'experts, dirigé par Alain Grandjean, auquel j'ai contribué. On a aujourd'hui sur la table les quelques scénarios réalistes qui permettent d'avancer vers une société bas carbone et, si possible, avec des émissions nettes nulles de carbone en 2050. Toute la grande question, c'est quelle sera la place du nucléaire en France en 2035. Mais là, ça relève d'un débat démocratique. Cela dit, les grandes étapes de ces scénarios de transition sont très connues. La première étape, la plus urgente, celle qu'on peut faire demain matin, c'est la rénovation thermique des bâtiments. En premier lieu, les bâtiments publics, parce que ça, il faudra le faire tôt ou tard. Donc les maternelles de Brive-la-Gaillarde, la caserne des pompiers, la souterraine, etc. Également, évidemment, la rénovation thermique des bâtiments résidentiels, privés. Ça, les ménages ne peuvent pas se l'offrir, ça coûte trop cher. Donc là, il faut nécessairement une intervention publique, par exemple sous la forme d'une garantie de l'État aux prêts que les banques vont accorder aux ménages pour faire baisser le coût du prêt et faciliter le financement de la transition. Tous les calculs liés au financement de ce type de programme ont déjà été réalisés. Ils sont sur la table du président de la République depuis 2014, en vérité. Après, il suffit d'appuyer sur le bouton vert.
Souvent, les politiques les plus sceptiques, et d'ailleurs dans la société civile, on les retrouve également, disent « oui, mais on en a marre d'être accusé, d'être culpabilisé. Il vaudrait mieux tabler sur des incitations positives que sur des incitations punitives. »
Ils n'ont pas tort, c'était le discours de Ségolène Royal. Le point, c'est qu'il faut comprendre que la transition crée des emplois.
Combien, on sait?
Oui, alors il y a des chiffres qui circulent. 1 million d'emplois pour la France, c'est considérable. Améliore notre balance commerciale, puisque réduit la nécessité pour nous d'importer du pétrole. Réduit notre dépendance au pétrole. On sait qu'il y aura un pic d'extraction
du pétrole. Alors pourquoi les politiques n'investissent pas plus?
Parce qu'ils sont eux-mêmes prisonniers, si vous voulez, d'un certain nombre de carcans réglementaires. La comptabilité nationale, qui ne favorise pas les investissements de long terme, la comptabilité d'entreprise, qui ne la favorise pas davantage, les règles de Maastricht, prenez la question des 3% du déficit public. Évidemment, ça ne facilite pas la question. Il faut renégocier ces 3%, inviter la Commission européenne à avoir une interprétation distincte, différente de celle qu'elle a eue jusqu'à présent, de ces 3%, pour faciliter des dépenses publiques en vue de ces investissements verts.
Rassembler le court et le long terme en politique, c'est quand même un vaste programme. Est-ce que vous êtes optimiste après le départ de Nicolas Hulot-Galgiraud? Lui disait en partant qu'il craint que ce soit pire avec son départ. De l'autre côté, certains croient à un électrochoc possible. José Bové parle d'un appel à la mobilisation.
Je pense que de toutes les manières, la transition écologique, nous allons la faire. Volontairement ou non, volens nolens. Soit on la fera par la contrainte et par le désastre, soit on la fera parce qu'on est intelligent et qu'on comprend à l'avance que pour éviter la catastrophe, il vaut mieux prendre des décisions aujourd'hui.
Une réaction peut-être sur la déforestation et les nouveaux léopards tueurs, Galgiraud?
Oui, c'est un des aspects des effets négatifs de la déforestation. Comme vous savez, la déforestation accélère le réchauffement climatique. Et d'une et de deux, met en contact des populations végétales et animales avec l'être humain qui, jusqu'à présent, ou en tout cas de manière simplement très très marginale, n'entrait pas en contact avec nous. Donc ça vaut pour ces léopards qui se mettent à manger des humains, parce qu'ils n'ont plus d'autres choses à manger. Mais ça vaut également pour les insectes, les bactéries, les virus. Bon. Ce qui veut dire que les épidémiologues nous préviennent, si on continue de faire de la déforestation sauvage comme on le fait actuellement, toute une série d'épidémies vont nous tomber dessus, par rapport auxquelles nous étions immunisés aujourd'hui grâce à la forêt. Ebola, par exemple, est probablement un contre-coup indirect de la déforestation.
Mais contre cela, on peut agir pour éviter d'être dans le catastrophisme.
Bien sûr, bien sûr.
Ce que disait Nicolas Hulot aussi mardi à France Inter, c'est qu'on s'accommode de la gravité.
Non. La transition écologique, elle est devant nous. On peut la faire. On n'a pas besoin de révolution technique. On n'a pas besoin d'un deuxième Einstein. Les chapitres en sont bien connus. Je le disais tout à l'heure, la rénovation thermique des bâtiments. La mobilité verte, ça passe par le ferroutage et le train, surtout. Et puis, le verdissement des processus industriels et agricoles. Et puis là-dessus, il y a un chapitre très important auquel fait un tout petit peu allusion Daniel Cohen dans son interview, qui est la dépendance très très forte de nos processus industriels à l'extraction minière. Nous avons besoin d'énormément de cuivre, d'énormément d'aluminium. Ces minerais-là se trouvent disponibles dans des réserves dont la densité chute dangereusement en ce moment. Les calculs que j'ai faits avec des géophysiciens suggèrent qu'on devrait avoir un pic d'extraction du cuivre d'ici 2060. Donc il faut qu'on se dépêche de trouver des substituts industriels à l'usage du cuivre.
On entend souvent quand même, Gaëlle Giraud, ça c'est vraiment une ancienne, on entend souvent que l'écologie est quand même un problème de classe moyenne supérieure, peut-être même un luxe réservé aux riches. Alors vous êtes chef économiste à l'Agence française de développement, vous êtes donc chargé d'aider les populations les plus fragilisés d'ailleurs, à pouvoir rester dans leur environnement dans des conditions dignes malgré les dérèglements climatiques. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments qui consistent à dire non, c'est un luxe réservé aux riches, aux bobos, dit-on, l'écologie.
Oui, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire les pauvres, à la fois dans chacun des pays et dans les pays les plus pauvres de la planète, sont les premières victimes du dérèglement climatique et plus globalement de la crise écologique. La Banque mondiale a publié un rapport l'an dernier qui suggère que d'ici 2030, 100 millions de personnes sur la planète pourraient retomber en dessous du seuil de pauvreté extrême à cause du dérèglement climatique. Si vous regardez la carte du monde, les pays les plus vulnérables au dérèglement climatique sont aussi malheureusement les plus pauvres, l'écrasante majorité étant située en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Donc c'est exactement le contraire. Le dérèglement climatique est un problème de riches. C'est-à-dire que 10% de la population humaine, les 10% les plus riches, sont responsables de 50% des émissions, tandis que les 50% les plus pauvres de la planète, la moitié de l'humanité, 3,5 milliards de personnes, n'émettent que 10% des émissions. Vous voyez ? Donc la vérité, c'est que le dérèglement climatique est un problème créé par les riches, dont les victimes sont majoritairement les pauvres.
Et donc qui doit payer ?
Eh bien, ce sont les riches qui doivent payer, pour des raisons à la fois d'équité et aussi simplement d'efficacité, parce que s'ils ne le font pas, personne ne paiera pour eux.
On prend l'exemple de la Chine. Cette année, par exemple, la Chine s'est amorcé, disons, une révolution verte, alors même que la Chine reste le premier émetteur de gaz à effet de serre de la planète, le premier producteur et consommateur de charbon. C'est un modèle ou un anti-modèle ?
C'est ni un modèle ni un anti-modèle. Je pense que nous en sommes tous là, c'est-à-dire tous les pays aujourd'hui sont au pied du mur, doivent inventer et tâtonner leur propre trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Certains le font de manière très volontariste, comme la Chine. D'autres ne le font pas, comme nous, la France.
Mais on n'est pas tout seul. On est dans un monde interdépendant. Aujourd'hui, Donald Trump, à la tête des États-Unis, n'a que faire de ces dérèglements climatiques et de l'accord sur le climat. Donc même si on prend des mesures vers la transition écologique dans notre petit coin, nous, Français, ça changera pas la face du monde, Gaëlle Giraud.
Bon, ça, c'est un vieil argument. En réalité, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement. Tout le monde est en train d'apprendre. Le premier qui sait faire quelque chose va montrer aux autres comment on le fait et tout le monde le fera à sa suite. Donc c'est exactement le contraire, c'est comme quand vous devez apprendre à nager. Dans ce cas-là, personne n'apprendrait jamais à nager parce que personne ne voudrait se jeter pour la première fois dans la piscine. La vérité, c'est que la rénovation thermique des bâtiments, on peut le faire en France, on n'a pas besoin de Donald Trump, on n'a pas besoin de la Chine. La mobilité verte, réhabiliter les anciennes lignes de chemin de fer qui étaient extrêmement denses et nombreuses en 1945, que nous avons abandonnées alors que la Belgique et l'Allemagne ne les ont pas abandonnés, ça on peut le faire, on n'a besoin de personne, on n'a pas besoin d'autorisation de Donald Trump pour le faire. Ça c'est à notre portée. Ça coûte un peu d'argent, le coût de la transition énergétique en France c'est entre 45 et 75 milliards d'euros par an, donc c'est entre 2 et 3% du PIB. La question c'est est-ce qu'on est prêt à mettre cet argent sur la table pour contribuer à sauver la planète et accessoirement aussi sauver la France.
Et qu'est-ce que vous faites, vous, donc, au sein de l'AFD pour aider concrètement ces populations exposées ?
Depuis une dizaine d'années, a pris un tournant majeur. À l'époque, nous étions les leaders sur ce point-là, qui est de dire, au fond, la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte contre la pauvreté sont un seul et même combat. Aujourd'hui, notre nouvelle frontière, c'est l'adaptation au dérèglement climatique, puisque, en fait, les désastres écologiques sont déjà en cours. Le delta du Mékong est déjà recouvert en partie par l'eau de mer. On sait qu'à la fin du siècle, il aura disparu, il sera sous l'eau. Donc, comment est-ce qu'on fait pour adapter le Vietnam à une situation dans laquelle son grenier à riz, qui se trouve dans le delta du Mékong, sera sous l'eau de mer ? Le Bangladesh est dans la même situation.
Oui, comment on fait ?
Alors, on est en train de travailler avec le gouvernement vietnamien, en collaboration avec lui, pour voir comment on peut, pour l'instant déjà, ensemencer avec du riz qui résiste davantage à la salinisation des sols, due à l'eau de mer, et ensuite replanter ailleurs, dans le reste du Vietnam. Une ville comme La Paz en Bolivie, qui est la capitale du pays, à 4000 mètres, aujourd'hui dans un désert, il y a des problèmes d'adduction d'eau majeurs. En 2016, La Paz n'avait plus d'eau. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on organise les populations pour traiter l'eau comme un bien commun et non plus comme un bien privé? Amman puise son eau, elle, dans une source aquifère à moins 400 mètres qui sera épuisée dans 25 ans. Comment est-ce qu'on imagine aujourd'hui des situations, des solutions pour que Amman puisse être alimenté en eau dans une génération? Ça, c'est ça toutes les questions que l'AFD essaye de résoudre aujourd'hui.
Et donc, on peut s'adapter, Gaël Giraud.
Bien sûr. Donc, nous, on fait un énorme effort.
Sans rompre avec le modèle existant.
Si, en rompant en partie avec le modèle existant. C'est-à-dire
parce que vous dites qu'on peut s'adapter à ce qui est en train de se passer, alors que de l'autre côté, on nous dit c'est catastrophique, c'est la fin du monde.
Mais il faut
L'homme peut s'adapter ou pas?
Il faut sortir d'une vision 0-1. On peut s'adapter, mais à condition de renoncer à un certain nombre d'utopies irréalistes, comme celle de la privatisation absolue du monde et du néolibéralisme qui veut soumettre le droit, notamment la dignité humaine, et le caractère incommensurable de la valeur de la nature à une logique purement économique, financière, de court terme. C'est avec ça qu'il faut rompre. Mais si on accepte de rompre avec ça, et on le fera de mille manières, alors il y a plein de façons de s'adapter, au contraire. Les populations du Sud, d'ailleurs, sont bien en avance sur nous, sur cette question. Nous avons à apprendre d'elles, c'est le thème de la reverse innovation, nous avons à apprendre d'elles comment elles s'adaptent, et l'un des secrets des populations du Sud, sur lesquels nous travaillons, nous, à l'AFD, c'est la question des communs. Comment est-ce que des communautés mettent en partage la propriété d'une ressource rare, inventent les règles d'extraction et d'usage de la ressource, que ce soit aussi bien la pisciculture chez les paysans guinéens forestiers du côté de Nzélékolé, que ce soit des banques de semences en Inde, que ce soit l'accès à l'eau dans les banlieues de Kinshasa. Il y a une inventivité institutionnelle de la part des populations au ras du sol que nous étudions et dont nous essayons de nous inspirer pour proposer au gouvernement des solutions novatrices.
Sur cette question, Gaël Giraud, de la réaction que nous avons, de la réflexion même que nous avons et de cette adaptation possible au mal en cours ou au mal qui vient, il se trouve que le mal qui vient est le titre d'un livre à paraître aux éditions du Cerf du philosophe Pierre-Henri Castel qui a écrit sur AOC, le quotidien en ligne AOC, un article paru en ligne hier sur ce mal qui vient. Et je voudrais vous soumettre sa réflexion. Il écrit « La certitude de la fin proche est souvent tenue pour un facteur mobilisateur qui devrait nous pousser à corriger la trajectoire qui nous précipite vers l'abîme. Au point qu'on se demande pourquoi diable les gens si avertis que nous sommes ne font finalement rien ou si peu. Mais d'une part, il est loin d'être clair, écrit-il, qu'une angoisse aussi totale devrait déclencher un sursaut salvateur. Et si c'était l'inverse, se demande Pierre-Henri Castel, si elle nous paralysait encore plus? D'autre part, plus dangereusement, la certitude de la fin pourrait bien nourrir, va nourrir et nourrit sûrement déjà des options morales et politiques qui précipitent la fin, car si tout est perdu, et cette certitude augmentera à mesure que la fin approche, radicalisant le processus auquel je pense, alors, qu'est-ce qui nous empêcherait de jouir de la façon la plus effrénée, la plus dévastatrice, de tout ce qui reste encore pendant qu'il est encore temps ? C'est effrayant quand même comme réflexion, mais c'est très intéressant.
Oui, je crois qu'il n'a pas complètement tort. C'est une manière de nuancer la position de quelqu'un comme Jean-Pierre Dupuis autour de ce qu'on appelle le catastrophisme éclairé.
Qu'il cite d'ailleurs dans son article.
Voilà, et je crois qu'il y a, au fond, le théologien Christophe Théobald dit qu'il y a trois types d'attitudes par rapport à la menace écologique. La première, c'est celle de Jean-Pierre Dupuis, qui est tout à fait honorable, qui est celle du prophétisme, qui dit « attention, la catastrophe va arriver, mobilisez-vous ». Mais, comme vous venez de le rappeler, ça peut être complètement démobilisateur, au contraire, parce qu'on est complètement déprimé face à l'ampleur de la tâche. La deuxième attitude, c'est plutôt celle de Hans Jonas, le grand philosophe, qui dit, au fond, nous avons une responsabilité éthique infinie et non réciproque vis-à-vis des générations futures. Des parents qui élèvent leurs enfants, et nuit et jour, et qui brûlent leur nuit blanche à élever leurs enfants, finalement, posent des gestes et une tendresse éthique qui est non réciproque, parce qu'à ce moment-là, l'enfant ne peut absolument pas restituer la totalité de ce qu'il reçoit à ses parents. Donc c'est un don sans réciprocité. Donc là, il y a cette dimension éthique. Nous avons une responsabilité éthique sans réciprocité vis-à-vis des générations futures. Mais celle-là aussi, elle peut être très angoissante et elle peut aussi être démobilisatrice. Et donc finalement, il y a une troisième attitude, qui est une attitude, on pourrait dire, plutôt spirituelle, qui est de faire l'expérience de la gratuité et de la tendresse de la nature qui nous sort, on pourrait dire, du fantasme de la surpuissance dans laquelle nous nous trouvons. Parce qu'au fond, le drame de la révolution industrielle et d'économie néolibérale, c'est de croire que l'humanité est surpuissante, qu'elle peut détruire les écosystèmes qui la font vivre, qu'elle les remplacera par des machines, qu'ont fait tous ceux qui racontent que lorsque les abeilles auront disparu, on pollinisera avec des machines, ce qui est évidemment faux.
Pourquoi et donc, évidemment ?
Parce qu'on n'arrivera jamais à polliniser avec des machines.
Pourquoi ?
Mais parce que c'est pas possible techniquement.
Bah on ne sait pas, on l'a pas
mais
fait
non,
encore.
Les machines, une machine, ça a besoin d'énergie, ça a besoin de minerais. On a déjà plus assez d'énergie et plus assez de minerais. Vous comprenez? Donc c'est juste un fantasme, voilà. Et donc cette troisième expérience là, elle est celle au fond d'une expérience de réconciliation avec une nature qui nous a donné gratuitement, et donc d'un réapprentissage de la gratuité. Ça nous sort du fantasme néolibéral et de la surpuissance.
Mais la nature n'est pas toujours tendre, Gaël Giraud. Vous serez d'accord avec moi là-dessus?
Bien sûr, c'est pas une maison, c'est pas un rêve.
Vous avez parlé de la tendresse de la nature, c'est pour ça que
c'est pas un rêve de bisounours. La tendresse, c'est la gratuité de ce qui nous est donné.
Gaël Giraud, vous citez les théologiens, je n'ai pas dit que vous étiez par ailleurs prêtre, c'est important aussi pour vous, mais du coup, je vais vous citer cette phrase de Bossuet, vous demandez ce que vous en pensez, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes.
Oui, il a raison. Voilà. Et donc la question c'est pour nous, comment est-ce qu'on accepte d'entrer dans un vrai régime d'autonomie, de responsabilité au sens des Lumières, de l'Aufklärung, de Kant, de ce que Marcel Gauchet par exemple essaie d'identifier aujourd'hui, qui est tel que nous assumons la responsabilité des actes que nous posons et de la manière dont nous détruisons les écosystèmes qui nous entourent pour transmettre une planète habitable à nos enfants.